Il est 8h.
Le secteur privé contribue à la prise en charge de 30% des patients de réanimation. Nous ne sommes plus en second rideau ou en renfort.
Cliniques privées et hôpitaux publics collaborent mieux cette fois-ci. Les leçons de la première vague ont été apprises. Témoignages en Seine-Saint-Denis, classé rouge écarlate. Fleuristes, graphistes, bouquinistes, touchés par le Covid, 31 nouvelles professions pourront bénéficier du fonds de solidarité jusqu'à 10 000 euros. Le détail à suivre. Après 4 ans aux mains des djihadistes, Sophie Pétronin n'est plus otage au Mali. Didier François nous révélera les coulisses de cette libération. Dans ce journal, Jean Castex, sur le terrain régalien, il va annoncer des renforts policiers à Toulouse. Les premières interdictions du glyphosate pour les agriculteurs, le secteur viticole sera le plus touché. Et puis un peu de guitare. Vous aurez la guitare et la voix à la fin du journal, la voix d'un certain Johnny Hallyday.
Après la menace d'une seconde vague, le patron de l'Agence régionale de santé Île-de-France annonce une marée très forte dans les hôpitaux. Il faut mettre toutes nos forces dans la bataille, dit-il. Les hôpitaux sont-ils prêts? Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quand le ministre de la Santé évoque une marée très forte de nouveaux malades, il en appelle aux hôpitaux et aux cliniques pour travailler ensemble, ce qui avait été l'un des points faibles lors de la première vague.
Cet esprit d'équipe entre l'hôpital public et le privé semble se mettre en place comme en Seine-Saint-Denis, département en alerte maximale, où Romain Oquet a enquêté.
Dans l'hôpital que dirige Yolande Di Natale, les patients Covid occupent la moitié du service de réanimation. Pour avoir de l'aide, la directrice a relancé ses contacts dans le privé.
Par rapport au début de la première vague, on se connaît, on a appris à se connaître. On a tous nos numéros de téléphone, nos portables, nos WhatsApp. Donc on peut solliciter effectivement nos partenaires privés sans aucun problème.
Parmi les retours positifs, celui de Jean-Philippe Gambaro, directeur d'une clinique voisine avec des lits disponibles.
Nos responsables des urgences sont en lien direct avec les urgentistes de l'hôpital de Montreuil. Ces échanges se traduisent par des transferts en cas de besoin.
Une collaboration dont se félicite Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée.
Le secteur privé contribue à la prise en charge de 30% des patients de réanimation. Nous ne sommes plus en second rideau ou en renfort. C'était le cas au mois de mars dernier, c'est-à-dire que l'on faisait appel à nous lorsque l'hôpital public était submergé, ce qui était une erreur.
Une solidarité pour partager les lits, mais pas le personnel, partout en sous-effectif. L'un des directeurs de clinique change de ton, là, c'est chacun pour soi.
Les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne basculent en zone d'alerte maximale. Toulouse et Montpellier sont en sursis, le gouvernement décidera lundi matin.
C'est la santé publique et la santé économique qui étaient soignées hier soir avec un Olivier Véran accompagné de son collègue Bruno Le Maire.
L'aide jusqu'à 10 000 euros du fonds de solidarité ne concernait depuis le déconfinement que certains secteurs précis, tourisme, événementiel, culture et sport. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Cette aide s'ouvre aussi à de nouvelles professions.
Oui, les métiers indirectement touchés et auxquels on ne pense pas immédiatement. Les fleuristes par exemple. Certains sont spécialisés dans la décoration des séminaires d'entreprise ou des hôtels de luxe. Eh bien ceux-là ont beaucoup moins de travail en ce moment, voire plus du tout. Et pourtant, ils n'avaient pas le droit au fonds de solidarité jusqu'à présent. Eh bien, désormais, ils pourront le demander. Pareil pour les pressings et blanchisseries. Avec les hôtels et restaurants en crise, ils n'ont plus autant de nappes ou de draps à laver. Il y a aussi les graphistes qui s'occupent du design des salons professionnels ou des faire-part de mariage, ou encore les bouquinistes des quais de Paris qui ne voient plus de touristes étrangers. Bref, il y en a d'autres, 31 au total. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Alors, ce fonds de solidarité, il était réservé jusqu'à présent aux entreprises de moins de 20 salariés. Ce sera désormais 50. Enfin, pour en bénéficier, il faut aujourd'hui avoir une baisse du chiffre d'affaires de 80%. Ça va passer à 70%.
Carole Ferry, du service économie d'Europe 1. Et nous, qu'avons-nous fait ces 4 dernières années, ou plus exactement, ces 1384 derniers jours? La réponse, pour Sophie Pétronin, est très simple. L'humanitaire française a été privée de sa liberté, enlevée au Mali la veille de Noël 2016.
Elle était la dernière otage française dans le monde, aujourd'hui âgée de 75 ans. La voilà libre. Bonjour Didier François.
Bonjour.
Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les dessous de cette libération?
Alors oui, cette séquence de libération, elle a commencé vendredi dernier, quand les négociateurs maliens ont finalement conclu un accord avec les islamistes d'un groupe terroriste qui s'appelle le JNIM et qui est affilié à Al-Qaïda. Leur idée, c'était d'organiser un échange, environ 200 djihadistes détenus à la prison centrale de Bamako contre les otages. Les autorités maliennes ont alors demandé aux militaires français de suspendre l'ensemble de leurs opérations dès le lendemain matin dans la région de Tessalit, dans le nord du pays, où pendant tout le week-end, des avions maliens ont amené les prisonniers derniers relâchés. Alors c'était 70 le samedi, 110 le dimanche et 26 pour terminer les lundis et mardis, sachant que dans l'eau, il y avait beaucoup de combattants de base, mais également quelques chefs. À l'origine, ce que voulait obtenir le gouvernement malien, c'était la libération d'un responsable politique de tout premier plan, Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition parlementaire, enlevé il y a 6 mois. Et l'enjeu était extrêmement important pour la junte au pouvoir, parce que ça lui permettra de renforcer sa légitimité et de consolider l'unité nationale. Dans cette logique, en fait, la libération de Sophie Petronin, c'était un peu la façon de faire passer une pilule franchement amère pour les soldats français qui ont capturé la plupart des djihadistes relâchés en prenant de véritables risques et en perdant dans ces combats des camarades. Donc cet épisode va marquer un tournant dans la gestion de la crise au Mali. Les choix des autorités maliennes d'ouvrir des négociations directes avec les terroristes, elle peut se défendre, elle n'est pas absurde, mais elle pose très clairement la question de l'avenir de l'opération Barkhane et de l'engagement militaire français dans le pays.
Les précisions. Didier François, spécialiste des questions de défense à Europe 1. Emmanuel Macron dit son immense soulagement, remercie les autorités maliennes. Il accueillera Sophie Petronin à son arrivée en France aujourd'hui. Elle-même souhaite déjà retourner au Mali, voir si son association d'aide aux orphelins fonctionne toujours.
Jean Castex, sur le terrain sécuritaire, le Premier ministre se rend à Toulouse pour signer un premier contrat de sécurité intégré.
Il y en aura d'autres et ce déplacement est le début d'une séquence très régalienne pour le chef du gouvernement. L'éclairage de Louis de Raguenel.
Autorité, sécurité et justice, comme le confie un de ses proches, c'est le premier discours régalien de Jean Castex. Le premier, mais pas le dernier. Car selon nos informations, le chef du gouvernement inaugure aujourd'hui une série de 25 déplacements dans toute la France pour signer des contrats dits de sécurité intégrée. Selon la formule d'un conseiller du Premier ministre, l'État veut mettre le paquet. Objectif non seulement augmenter les effectifs, mais aussi apporter des moyens matériels pour faciliter le travail des policiers. Par exemple, aujourd'hui, l'arrivée de 100 policiers supplémentaires et de 50 voitures doit être annoncée. Au-delà de ces annonces attendues, Jean Castex espère surtout se relancer en s'investissant dans la sécurité des Français. Il veut stopper la petite musique qu'il entend autour de lui, selon laquelle il n'imprime pas. D'autant qu'un sondage publié ce matin dans Les Échos montre qu'il chute de 4 points. Même si Jean Castex dit régulièrement qu'il ne s'intéresse pas à sa cote de popularité, le Premier ministre qui a été nommé pour assurer la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron ne peut y rester insensible.
À propos de sécurité, 2 enfants ont été brièvement hospitalisés hier après avoir manipulé un petit pochon de cocaïne dans leur école maternelle de Gagny en Seine-Saint-Denis. Ils avaient porté un peu de cette drogue à leur bouche. On ne sait pas encore si elle était cachée dans l'établissement ou si elle a été apportée de l'extérieur par un élève.
Vous restez bien sur Europe 1. L'interdiction du glyphosate. Le sujet avait valu un échange musclé clé à Emmanuel Macron pour son premier salon de l'agriculture.
Moi, je vais vous dire, je regarde les yeux dans les yeux. Vous êtes là où vous êtes, moi je suis là où je suis. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais, demain, après-demain.
Les détails sur ces restrictions qui arrivent, et puis on entendra ce nouveau titre inédit de Johnny Hallyday, Deux sortes d'hommes.
8h08, à tout de suite.
Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
En 2017, Emmanuel Macron avait promis l'interdiction du glyphosate dans les 3 ans. L'Agence de sécurité sanitaire annonce ce matin une série de restrictions pour les agriculteurs.
Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
En un mot, partout où on peut faire autrement, le glyphosate sera interdit.
Oui, par exemple dans les vignes, entre les rangs, les herbes qui poussent font concurrence à la vigne. Il faut donc les éliminer, mais il est possible de désherber en passant un tracteur pour tondre. Le glyphosate sera donc interdit entre les rangs. En revanche, sous les pieds de vigne, difficile d'accès, impossible de désherber mécaniquement. Les vignerons pourront donc continuer à utiliser l'herbicide sur ces zones-là, c'est-à-dire sur 20% de leur parcelle, mais à des doses plus faibles. Au total, c'est une réduction de 80% par rapport à la dose maximale autorisée actuellement. L'Agence de sécurité sanitaire annonce le même type de restriction pour 3 autres types de cultures, les vergers d'arbres fruitiers, les champs de grandes cultures, donc blé, maïs, colza, pois, et les forêts pour l'exploitation du bois. Alors ces nouvelles règles pourront demander des investissements minimes aux agriculteurs, par exemple l'achat de tracteurs pour tondre, mais l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'inconvénient économique majeur à cette nouvelle méthode.
Avec ça Virginie, est-ce qu'on sait à quel point les volumes de glyphosate utilisés en France vont baisser?
Alors ça devrait les faire diminuer de plus de 50% selon le ministère de la Transition écologique, puisque c'est très majoritairement dans l'agriculture que le glyphosate est utilisé, 8000 tonnes par an. Pour vous donner une idée, les voies de chemin de fer ne représentent que 0,6% des usages et l'ANSES n'a pas identifié d'alternative sans risque pour les opérateurs et les passagers. Mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas prêt d'abandonner complètement le glyphosate puisque l'ANSES n'a pas recensé d'alternative intéressante, donc sans produits chimiques, dans la moitié des cas.
Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1.
Et puis vous l'attendiez, cet extrait du nouveau single de Johnny Hallyday, trois ans après la mort du chanteur, un titre inédit. Deux sortes d'hommes, une chanson blues qui aurait dû faire partie de l'album Rester vivant, sorti en 2014. Mais voilà, on avait enregistré trop de chansons pour un album de Johnny, alors on en a gardé un petit peu de côté.
Deux sortes d'hommes, nouvel inédit de Johnny Hallyday. Merci beaucoup François Geffrier. Et sur Johnny Hallyday, on va vous souhaiter un bel anniversaire, François. 30 ans aujourd'hui, 30 ans. Et il présente le journal de 8h d'Europe 1 avec brio. Merci François et bon week-end.
Merci Mathieu.
8h12.